France Culture.
Les nuits de France Culture.
En 2008, à la fin du mois de juillet, à quelques jours de l'ouverture à Pékin de la 29e des Olympiades de l'ère moderne, débutait sur France Culture la diffusion d'une série de 5 émissions consacrées aux Jeux Olympiques que proposait Aurélie Luneau. C'était au Comité international olympique, le CIO, à son histoire et à son fonctionnement, que s'intéressait le premier des volets de cette série que nous allons entendre. Dans cette émission, après avoir exposé l'idéal olympique tel que l'avait rêvé Pierre de Coubertin, on rappelait l'opacité souvent reprochée au mode de fonctionnement du CIO, en évoquant notamment la période durant laquelle, de 1980 à 2001, Juan Antonio Samaranch en avait été le président. Des années marquées, entre autres, par des faits avérés de corruption lors de l'attribution des Jeux, en particulier ceux d'hiver de Salt Lake City. Le cœur des Jeux, première des 5 parties consacrées au CIO, le Comité international olympique, diffusée le 27 juillet 2008 sur France Culture.
Que cette fête soit la fête de tous les hommes et femmes, des nations et des villes, de tout le monde, et qu'elle soit le début d'une paix durable, une paix que la jeunesse mérite et que je suis sûr qu'elle aura. Visque aux Jeux Olympiques.
C'est fait maintenant, oui en effet, la vasque s'allume, s'illumine, alors que la foule, les 72 000 spectateurs du stade olympique et les athlètes, les quelques 8000 athlètes qui ont participé à ce défilé, saluent maintenant cette flamme olympique qui officiellement maintenant a pénétré sur le stade olympique et brille alors que les chœurs entonnent un nouvel hymne, un hymne de joie, un hymne d'allégresse, un hymne à la jeunesse du monde.
L'olympisme, au départ pour Pierre de Coubertin, c'est d'abord les Jeux olympiques, c'est-à-dire une manifestation sportive.
En ciselant son corps par l'exercice, comme le fait un sculpteur d'une statue, l'athlète antique honorait les dieux. En faisant de même, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau. J'estime donc avoir eu raison de restaurer dès le principe, autour de l'olympisme rénové, un sentiment religieux transformé et agrandi par l'internationalisme et la démocratie qui distinguent les temps actuels, mais le même pourtant qui conduisait les jeunes Hellènes ambitieux du triomphe de leurs muscles au pied des autels de Zeus. De là découlent toutes les formes cultuelles composant le cérémonial des Jeux modernes.
Dans un deuxième temps, face à toutes les oppositions qu'il rencontre, Coubertin doit théoriser l'objet.
Patrick Lastre, historien.
Et il va inventer effectivement l'olympisme, d'abord sous la forme d'un décorum, d'un cérémonial, qu'il met au point entre 1906 et 1912, qui est connu, hein, c'est le défilé des athlètes par nation, c'est le serment olympique.
De tous les concurrents, je promets.
Et puis après la Première Guerre mondiale, après l'échec de ce pacifisme libéral finalement, eh bien là c'est un rapprochement plus fort, plus intime avec un certain nombre de références antiques, comme par exemple le serment de l'athlète qui est prêté en 1920 et à nouveau en 1924 à Paris. Il y a eu le drapeau à la veille de la Grande Guerre, le drapeau olympique aux 5 anneaux entrecroisés. Il y a, Coubertin rêve d'une parade qui soit construite un peu sur le mode militaire, mais avec des feux d'artifice. L'idée, c'est quand même d'encadrer les foules. Hein, par le décorum, c'est l'idée de contrôler ces foules nationalistes déjà.
Alors dans ce décorum, il y a le lâcher des colombes et puis il y a la flamme. On la voit apparaître à partir de quand, cette fameuse flamme
olympique, on la voit apparaître à Amsterdam en 1928, Il s'agit d'allumer une vasque, mais on retient surtout, je crois, le parcours, le premier parcours de la flamme olympique, depuis Olympie jusqu'à Berlin. C'est à l'initiative de Karl Diem, l'organisateur des Jeux de Berlin en 1936. Et cette flamme olympique, elle va depuis Olympie, Salonique, parcourir une Europe centrale qui est déjà largement acquise au régime autoritaire des années 30. Et d'une certaine manière, elle symbolise, elle préfigure l'Europe nouvelle que l'Allemagne souhaite édifier. Et de ce point de vue, on ne peut être qu'étonné que le CIO ait conservé ce rituel de la flamme olympique, qui est à double sens, dans la mesure aussi où pour les nazis, il s'agissait aussi de purifier l'Europe. Pyros, en grec, c'est la flamme. Et donc, il y a là une ambiguïté, une ambivalence de cette flamme olympique et de sa symbolique que le CIO n'a pas interrogé et qu'il a finalement conservé au risque de, nous l'avons vu récemment avec les épisodes de la flamme parcourant la planète, qui risque, le CIO risque de se brûler à cette flamme olympique.
I declare open the games.
Le cœur des jeux. Aurélie Luneau, Gilles Davidas.
La vasque s'allume, s'illumine.
Premier volet, un monde, un rêve. C'est en 1894 que Pierre de Coubertin parvient à relancer les Jeux Olympiques. Un comité international des JO est alors créé, qui prend rapidement le nom de Comité international olympique à partir de 1900. Pour le baron Coubertin, le sport est un levier d'éducation morale et un formidable instrument de paix mondiale. Autour de lui, il rassemble des pédagogues, des ambassadeurs, des militaires de haut rang, des gens de bonne société, cooptés, et qui se rejoignent sur un même projet éducatif, produire une élite sportive et installer une arène olympique symbole de fraternité internationale. Mais ce CIO n'aura de cesse d'interpeller sur son fonctionnement et sur les prises de décision souvent jugées opaques. Jean-Loup Chapelet, vous avez été en poste, vous, au CIO, de 1982 à 1987, chargé du système d'information. Alors expliquez-nous, comment fonctionne le Comité international olympique ?
Bien, c'est une association de droit suisse, donc... Comme dans toute association, comme dans tout club sportif, en fait, le pouvoir est dans l'Assemblée générale des membres, le pouvoir ultime. Donc, le CIO appelle cette Assemblée générale annuelle la session des membres du CIO. Et c'est cette session qui prend toutes les décisions importantes, par exemple l'élection d'un président, l'élection des membres de la commission exécutive, c'est-à-dire du gouvernement, si vous voulez, du CIO, et aussi l'élection des villes olympiques. Ensuite, donc, il y a aussi une commission exécutive qui est composée de 15 membres parmi les 115. Et puis, il y a, et elle s'est développée beaucoup depuis les années Samaranch, justement, une administration qui s'est beaucoup développée, à la tête de laquelle était Monique Berliou, et jusqu'en 1985. Et cette administration est chargée des affaires quotidiennes à Lausanne, puisque le CIO est installé à Lausanne depuis 1915.
C'est un monde masculin, Monique Berliou, on peut dire ça, le monde des Jeux Olympiques. Il y avait peu de femmes à votre époque et aujourd'hui encore.
Ah oui, il n'y a jamais eu beaucoup de femmes. D'abord parce que les femmes ont mis longtemps à être admises aux Jeux Olympiques.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
Est-ce qu'on peut dire, Patrick Klass, que Pierre de Coubertin était particulièrement misogyne ?
On pourrait le dire avec le regard rétrospectif, mais il faudrait aussi retrouver l'air du temps. Il est marqué par son éducation, d'une famille très catholique, papiste, traditionnaliste, élevé chez les jésuites. Il a une sœur plus sportive que lui, dit-il, quand il est jeune. Il est très proche de sa mère aussi. En même temps, il n'imagine pas ces jeux de la virilité et de la construction de l'homme nouveau, l'homme moderne. Il ne l'imagine pas pour les femmes. Il ne veut pas de jeux femelles, dit-il, inesthétiques. En fait, c'est davantage par puritanisme aussi, parce que pour lui, que les femmes participent, plutôt dénudées à des compétitions sportives, c'est shocking. Hein,
c'est indécent.
C'est indécent. Mais il y a effectivement l'idée que le sport est réservé à l'athlète mâle et plutôt occidental d'ailleurs.
Ah oui, il n'y a jamais eu beaucoup de femmes d'abord parce que les femmes ont mis longtemps à être admises aux Jeux Olympiques. Ceci étant, elles avaient participé en 1912 en natation, mais enfin très peu, en 28 en athlétisme, très peu. Comme elles n'étaient pas entraînées, elles ont fait de très mauvaises démonstrations et on a dit, mais que viennent-elles faire là? Il faut ne pas les admettre. Bon. Et beaucoup plus tard, je me souviens, quand il a été demandé d'inclure le marathon féminin dans les épreuves. Je me souviens très bien de la discussion qui a eu lieu disant que les femmes n'étaient pas capables de courir le marathon. Les hommes décidaient, étant donné qu'il n'y avait que des hommes au CIO, qu'il n'y avait pratiquement que des hommes dans les fédérations internationales et que c'était eux qui faisaient les règles. En ce qui concerne le marathon féminin, j'ai trouvé génial, je crois que c'était à Los Angeles, on trouve que mettre le marathon masculin l'après-midi, c'était trop dur pour les hommes, mais par contre, on a trouvé que c'était bon pour les femmes.
On a dit que c'était un monde de misogyne. C'est comme ça que vous le ressentez, vous, Monique Berliou ?
Tout à fait. Tout à fait.
C'est avec Monique Berliou, finalement,
Patrick Clast,
les années 1970, qu'on a une directrice de l'administration du CIO, une Française donc, qui occupe ce poste. Elle remplace l'ancien chancelier, on n'a pas créé de chancelière. Elle n'y tient pas d'ailleurs, mais elle est directeur hein, des services du CIO. Et puis ensuite, c'est l'arrivée au milieu des années 1980, sous l'impulsion de Juan Antonio Samaranch, d'ailleurs, de la première femme au CIO. Et puis, lentement, on va intégrer davantage de femmes et de sportives. Mais il y a encore toute une série de discriminations qui courent.
Inter-actualité.
Bon, maintenant, nous assistons à la série du 100 mètres nage sur le dos avec Christine Caron, Jean-Rénal. Christine Caron a fait un très bon virage. Elle est actuellement en tête à la ligne numéro 3, alors qu'à la ligne numéro 7, l'Anglaise Norfolk est en deuxième position. Elle suit Christine Caron à une cinquantaine de centimètres environ. La troisième étant pour l'instant la ligne numéro 6, égalité avec la ligne numéro 1, c'est-à-dire l'Allemande Schmidt avec la Hollandaise Winkel. Et Christine Caron triomphe très facilement. Première, Christine Caron, en 1 minute 8 secondes et 5 dixièmes. C'est un temps tout simplement remarquable. Christine Caron approche le record du monde de 2 dixièmes de seconde et elle améliore le record olympique. Christine, alors vous êtes contente?
Oui, oui, très contente.
Vous avez le sourire, vous n'êtes pas fatiguée du tout?
Non, non, ça va.
Votre belle mise en bouteille de l'autre jour à l'ambassade est partie quand même.
Oui, mais après, j'en fais faire une.
Le jour de la finale?
Oh non, après.
On m'a dit que vous aviez commandé un coiffeur entre l'arrivée de la finale et le moment où vous montrez sur le podium.
Ah bah, c'est pas vrai, de toute façon, c'est pas sûr quand même que je monte sur le podium.
Non, mais si, quand même, c'est pratiquement certain maintenant.
Non, pas
vrai. Bon, vous avez retrouvé le sourire, vous êtes confiante en vous, là, vous êtes sûre de vous. Là.
Oui, je suis assez confiante.
Les membres du CIO sont bénévoles ou payés?
Ils sont bénévoles, mais leurs frais sont remboursés. Les frais de leurs conjoints sont remboursés lors des Jeux, pendant les 15 jours de Jeux. Le logement, le couvert, etc., etc., etc. Bon, alors, d'accord, ils ne sont pas payés. Lorsqu'ils voyagent, c'est aux frais du CIO. Les membres des commissions, leurs frais sont remboursés. Bon. Ce ne sont donc des bénévoles, soit, mais enfin des bénévoles très bien lotis.
Disons qu'il y a une opacité qui est liée au mode de recrutement du CIO, qui est la cooptation. Elle a été souhaitée par Coubertin parce qu'elle lui permettait, à lui et à ses collègues, leur permettait d'éviter la mainmise des États sur le fonctionnement même de l'institution olympique. Il est vrai que les Jeux olympiques ont toujours été contrôlés par les États. Le CIO, finalement, n'a pas le contrôle des Jeux olympiques. Ce sont les Grecs qui prennent le contrôle à Athènes en 1996, la République française à Paris en 1900, Coubertin est écarté, la foire commerciale de Saint-Louis en 1904. Bref, peut-être qu'à Stockholm 1912, Coubertin connaît là une sorte d'apogée sportive, mais ensuite, c'est Anvers, c'est l'exclusion des Allemands et des Autrichiens. À Paris en 1924, ce sont les Jeux du cartel. On a à Los Angeles des Jeux commerciaux ont 32, 36, c'est les jeux nazis. On a un CIO qui est dépossédé assez régulièrement de l'organisation des jeux. Donc ce qu'il peut lui contrôler, c'est la structure elle-même et la cooptation le permet. Et d'une certaine manière, le CIO, à certains moments, a dû obtempérer devant les nominations qui étaient imposées par les régimes autoritaires qui se présentaient à lui.
Et en même temps, on a l'impression que ce CIO est tout puissant.
Il est tout puissant dans la mesure où c'est lui qui décide de l'attribution des Jeux Olympiques.
Alors comment ça se passe en interne, Monique Berliot, quand on fait partie de ce comité international olympique pour désigner une ville?
Ah. D'abord, le CIO écrit à tous les comités nationaux olympiques pour faire un appel de candidature. Ensuite, les candidatures sont reçues et évaluées. Alors, pendant très longtemps, les membres du CIO se rendaient sur place pour voir si Paris, Londres, Berlin, Moscou étaient capables d'organiser les Jeux. Et maintenant, on a choisi d'envoyer un groupe de personnes, choisies parmi les membres du CIO, des fédérations, des comités, etc., pour aller rendre visite à toutes les villes et faire un rapport qui est envoyé aux membres du CIO. Donc les membres du CIO qui vont voter jugent sur les pièces qu'on leur propose, mais ne vont plus visiter les villes. Tout cela a été fait parce qu'il y a eu quelques scandales, les membres du CIO acceptant peut-être trop de cadeaux que leur offraient les villes.
Donc c'est comme ça depuis 1999, depuis le scandale notamment de Salt Lake City.
Voilà.
Est-ce que cela vous a surpris, vous, ce scandale, Monique Berliot?
Non, pas du tout.
France Inter.
À Lausanne, les dirigeants olympiques balaient devant leurs portes, il était temps. Devant le scandale qui montait après l'achat des Jeux d'hiver par Salt Lake City dans l'Utah, les sanctions sont tombées. Hier soir, la commission d'enquête a recommandé l'expulsion de 6 membres du CIO, 4 Africains et 2 Sud-Américains. Un autre originaire du Swaziland a préféré démissionner. Enfin, Anton Gezing, l'ancien judoka néerlandais, écope d'un blâme et 3 autres membres sont sous le coup d'une demande de complément d'enquête. Juan Antonio Samaranch, 78 ans, le président du CIO, sauve ainsi sa tête en annonçant lui-même qu'il est prêt à poursuivre tous les membres qui ont trahi leur serment olympique.
Les membres en question ont violé leur serment olympique et trahi la confiance placée en eux par la famille olympique. Nous sommes résolus à extirper toute irrégularité et à faire en sorte que celle-là ne se reproduise plus jamais. Je suis convaincu que le mot olympique sortira plus fort que jamais de cette crise.
Est-ce que l'affaire de Salt Lake City en décembre 1998, Raymond Pointu, ça vous a surpris, vous ?
Le travail d'influence auprès des membres du CIO avait pris une importance considérable. Les réceptions, les petits cadeaux et... J'ai connu des membres du CIO qui promettaient leur vote à 2 villes ou 3 villes en même temps pour recevoir des cadeaux. Il y avait un membre du CIO qui était soviétique, quand Birmingham a été candidate, qui s'est fait offrir une paire de fusils de chasse parce qu'il savait qu'on savait qu'il était chasseur. Mais c'est aussi un peu la faute des comités d'organisation, parce qu'il y a eu un travail d'influence de plus en plus considérable auprès des membres pour obtenir leur vote, quoi. Samaranch lui-même avait pratiqué, était un adepte de la politique des petits cadeaux. Il l'a été toute sa vie. Il faisait des cadeaux à ses petites amies, il leur offrait des Lancia. Il a fait des cadeaux aux membres influents de la vie à Barcelone. Et il offrait des tasses en argent ou en vermeil quand ils avaient des enfants, etc., etc. Il pratiquait lui-même, ça a été un pratiquant échevelé des petits cadeaux. Et donc, ça avait pris une ampleur effectivement assez énorme. Et les gens les plus faibles par rapport à cette question, c'était évidemment les gens des pays pauvres, les Africains, et puis les gens des pays de l'Est, quoi. Et ces gens-là étaient évidemment très vulnérables. Et le CIO a brandi sa hache, son épée, et a dit qu'il allait faire le ménage. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est advenu, mais c'est sûr que le nouveau président du CIO, le Belge Roguet, a une morale un peu moins élastique que celle de Samaranch, quoi.
Vous savez comment est sortie l'affaire de Salt Lake City? C'est une petite station de télévision de Salt Lake City qui a publié des informations et des documents, qui en fait un document qui était faux, mais qui s'est révélé vrai sur le fond. Et c'est comme ça que l'affaire a commencé. Les médias s'en sont emparés. Et puis en décembre 1998, lors d'une réunion de la commission exécutive qui avait lieu à Lausanne, un des membres du CIO, Marc Odler, qui participait à cette réunion, en a rajouté en quelque sorte, a confirmé effectivement ces rumeurs et a confirmé d'autres choses. Et ça a été le début du scandale. Et c'est à ce moment-là que les médias s'en sont emparés.
Et le CIO avait aussi donné l'impression d'avoir du mal à accepter peut-être ce nettoyage en interne nécessaire. Ils ont mis un petit peu de temps quand même.
Oui, parce que toute décision au CIO nécessite à un moment donné la majorité des membres. Donc c'est très difficile de se couper la tête soi-même, comme on dit, hein. Donc pour exclure un membre du CIO, il faut qu'il y ait une majorité contre lui. Et comme c'est un club de gens qui se connaissent, il faut vraiment avoir fait de graves choses pour que vos collègues, les autres membres, en majorité, décident de voter contre vous.
France Inter.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London.
France Inter.
Nous sommes tous des Londoniens, disait Bertrand Delanoë le jour même des attentats. Il semblait vouloir mettre de côté sa déception de voir les Jeux Olympiques 2012 attribués à la capitale britannique, mais sa compassion s'est aujourd'hui envolée. Ce matin, le maire de la capitale rendait compte devant le Conseil de Paris. Il a assumé la défaite de la capitale française, mais il a aussi relancé la polémique sur les Britanniques qui n'auraient pas respecté les règles du jeu. Bertrand Delanoë.
Moi, je vais vous dire une chose, le fond des choses. C'est la manière dont Blair et Sébastien Coe n'ont pas respecté les règles du CIO. Je ne dis pas qu'ils ont flirté, je dis qu'ils sont passés de l'autre côté de la ligne. Et donc, voilà pourquoi on a perdu. Je pense que la victoire s'est faite sur autre chose que l'olympisme. Nous avons fait un choix, notamment par rapport à la corruption.
Qu'est-ce qui nous a manqué? Quelques voix, 3-4 voix à peine.
Jean-François Lamour, champion olympique de sabre.
La candidature n'a pas été de notre côté suffisamment identifiée. On avait en face de nous un Sébastien Coe, lui-même un politique ancien sportif, qui représentait seul la candidature de Londres. Il était disponible à 110% de son temps, il voyageait partout. Il était l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des membres du CIO. Non pas que les membres le connaissent parfaitement, c'est jamais possible, mais quand il y avait un problème, on appelait Sébastien Coe. Et quand un problème était connu de Sébastien Coe, il se rendait auprès du membre du CIO. De notre côté, nous avions la même volonté, la même détermination, la même envie de gagner, mais nous l'avions répartie entre plusieurs membres de la candidature, le maire, les membres du CIO, le président de la région, l'État, le président de la République, le Premier ministre de l'époque, puisqu'ils se sont remplacés entre Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin. C'est pas de la magouille. Les Anglais n'ont pas triché, contrairement à ce qu'on a pu entendre quelques heures après le choix de Londres. C'est faux, mais ils sont mieux armés, ils font mieux passer les messages. Les relais anglo-saxons sont plus forts que les nôtres, et c'est ce à quoi il faut remédier si on veut un jour peut-être repartir sur une candidature française.
Si on ne comprend pas comment ça marche, on fait des tas d'erreurs. Quant à 2012, je crois que ce qu'on a reproché surtout, c'est un, de faire une candidature pour les Français, pas pour le Comité international olympique. On a très bien vendu la candidature de Paris à toute la France. Mais malheureusement, c'était pas la France qui votait, c'était les membres du CIO. Et on n'a pas su leur vendre cette candidature. Deuxièmement, les Français n'ont pas beaucoup d'amis, il faut le dire, dans les instances internationales, car ils ne savent pas se faire des amis. Ils ne sont jamais d'accord, ils se bouffent le nez entre eux, etc., etc. Ils ont très mauvaise réputation.
Bertrand Delanoë avait pointé du doigt l'action de Tony Blair en sous-main. Vous en pensez quoi, vous, Monique Berliou?
Je pense que Tony Blair a fait son boulot et que M. Delanoë n'a peut-être pas fait le sien. Voilà ce que je pense.
Tony Blair a reçu toute la délégation des membres du CIO avec l'accord du président du CIO, Jacques Rogge.
Michel Jazzy, coureur de fond.
Et ils ont reçu tous ses membres. Et ensuite, ça s'est très bien passé, bonne réception, alors que nous avions reçu des recommandations comme quoi il ne fallait pas avoir de contact avec les membres du CIO. Et par la suite, Tony Blair a reçu un par un les membres du CIO qui votaient. Eh bien, je crois que c'est quelque chose qui n'était pas très clair, car les gens ne sont pas repartis les mains vides, croyez-moi.
To the city of London.
J'ai fait la bise à Ken Livingstone, le maire de Londres, que je connais bien. J'ai pas fait la bise à tous les animateurs de la candidature de Londres. Voilà.
La neutralité de l'olympisme, un vœu pieux de Pierre de Coubertin. Mais la désignation des villes olympiques a toujours provoqué des remous dans cette arène diplomatique. Il faut bien avouer que les meilleurs dossiers ne franchissent pas toujours la ligne d'arrivée.
Et je vais faire ce que vous n'aimez pas, on va vous couper 30 secondes pour aller à Lausanne.
Alphabétique.
Voici les équipes désignées.
Athènes, Buenos Aires, Cape Town, Roma et Stockholm.
Voilà, c'est la déception, il n'y aura pas Lille. Vous avez entendu les villes désignées, et donc oui. Lille a été rejetée, ainsi que Saint-Pétersbourg, Séville, Sarouane de Porto.
La désignation, elle s'opère au sein même du CIO, qui est lui-même coopté.
Patrick Lastre.
Les membres du CIO ne sont pas les représentants de leur comité national olympique dans le CIO, mais selon les statuts, ils sont les ambassadeurs du CIO dans leur propre pays. Donc ils sont tenus à une neutralité qui a ses propres limites, dans la mesure où tous sont de grands patriotes dans les moments chauds du XXe siècle. En même temps, il y a plusieurs étapes, plusieurs configurations. Avant la Grande Guerre, par exemple, le but, c'est d'abord d'assurer la pérennité des Jeux et de les rendre itinérants, de les faire voyager à l'échelle de la planète. Après la Première Guerre mondiale, comme après la Deuxième Guerre mondiale, le CIO se plie, d'une certaine manière, aux desiderata des vainqueurs de la guerre et il attribue les Jeux aux pays martyrs, en quelque sorte. C'est les Jeux d'Anvers en 1920, les Jeux de Londres en 1948. Et puis, ensuite, c'est la recherche de pays de neutralité qui permettent, ces pays-là vont permettre au CIO de se reconstruire. Donc c'est Helsinki, par exemple, en 1952. C'est Amsterdam en 1928. On a d'autres choix qui sont réalisés ensuite, qui visent tout simplement à trouver une ville candidate. Dans les années 1960, aucune ville ne veut être candidate. Ça coûte cher, l'organisation est difficile à monter, les Jeux ne rapportent rien. Avec les années 1970, on a des désignations de villes qui sont éminemment stratégiques, qui permettent au CIO d'avoir une sorte de diplomatie du balancier, en confiant les Jeux à Moscou en 80. Et puis à Los Angeles en 84. C'est une manière d'équilibrer le rapport des blocs, ces fameux blocs qui existent au sein du CIO, comme ils existent dans la diplomatie internationale depuis les années 1950.
C'est vrai qu'il y a une tendance à aller vers des régimes autoritaires, pour ne pas dire plus, parce que, bien entendu, dans ces régimes, c'est beaucoup plus facile d'organiser les Jeux Olympiques.
Jean-Loup Chapelet.
Les Jeux Olympiques, ce que je vais dire n'est pas très politiquement correct, mais les Jeux Olympiques sont un très très gros projet qui nécessite des constructions importantes, des aménagements pharaoniques qui sont plus faciles à faire dans des pays où finalement les décisions sont très centralisées et où... les voisins, par exemple, n'ont pas grand-chose à dire.
Dans ce jeu de balancier olympique, de balai diplomatique, les villes candidates s'évertuent à bâtir le dossier idéal. Mais jusqu'où aller sans se brûler les ailes ? Illustration.
France Inter.
À Moscou, reportage de Franck Ballanger.
Tout se joue au pied du coq. Je m'explique. Au beau milieu du hall de l'hôtel du CIO, trône un immense coq qui chante toutes les heures. Le Coq, donc, une œuvre d'art pour les uns, un point de rencontre pour tous les autres. Maurice Herzog, l'alpiniste, fait le guet à la sortie de l'ascenseur, passe à Claude Bébéard et Bertrand Delanoë, le maire de Paris, qui serre des mains, parle anglais, si si, et sourit en toutes circonstances.
Ah, je vous dirais pas que je suis désagréable, que je dis pas bonjour et que tous ceux qui me disent qu'ils aiment Paris, je leur dis ah ben non, il faut pas aimer Paris, non. J'ai veillé à aller moi-même vers tous nos concurrents.
Les Chinois sont tout aussi organisés et à peine plus discrets. Les derniers instants avant le vote se résument donc à des danses de séduction. Faire les pans sous un coq, visiblement la seule technique valable pour organiser les Jeux en 2008. Dernière précision, le coq de l'hôtel, eh bien il a été offert par la Chine.
Merci à Monique Berlioux, Patrick Lastre, Jean-Loup Chapelet, Jean-François Lamour, Michel Jazy et Raymond Pointu. Et merci aussi à toute l'équipe du Cœur des Jeux, Sophie Gilry, Anne Delavaux pour les archives sonores de l'INA, Sophie Cheblin et Émilie Serfati de la documentation écrite et Antoine Vuillaus de la discothèque centrale de Radio France. C'était le Cœur des Jeux, mixage Bernard Laniel. Une série d'Aurélie Luneau et Gilles Davidas en partenariat avec la revue L'Histoire.
C'était la première émission de la série Le Cœur des Jeux, consacrée au CIO, diffusée le 27 juillet 2008 sur France Culture. À suivre.